Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Bonjour à tous, je suis Martin Mosnier, bienvenue dans le FC Stream Team. Et comme chaque vendredi, pour m'accompagner, c'est pas lui qui m'accompagne, c'est moi qui l'accompagne, car il est la lumière de cette émission, Monsieur Dupuis. Maxime, comment ça va, Maxime?
Écoute, ça va Martin, le sémillant Martin Mosnier, le brillant Martin Mosnier, je dis pas ça pour sa peau qui est parfaitement matifiée grâce à son maquillage de fond. Merci pour cet hommage pour commencer, je pense qu'on pourrait presque arrêter là même, parce que moi ça me va.
Alors il faut savoir que cette émission, est, j'ai l'impression quand je vois tes tempes sponsorisées donc par Jean-Louis David, Jacques Dessant, Louis Biguin et Franck Provost, car il y a une concordance du coupage de cheveux, hein. On s'est pas mis d'accord, mais malgré tout. Et tout ça pour vous dire que si vous écoutez ce podcast, vous pouvez nous retrouver sur eurosport.fr et voir nos nouvelles coiffures. Alors je suis pas sûr que ce soit une réussite. Moi Maxime, j'aime plutôt bien, je trouve que t'es bien rafraîchi, ça te rajeunit.
J'ai bien rafraîchi et j'ai un peu plus rafraîchi qu'habituellement pour faire des économies en fait.
Parce que ça, oui, parce que l'été dur, Maxime, on va pas se raconter d'histoire, l'été dur, donc voilà. J'espère que vous allez tous très bien, comme chaque semaine, si vous nous écoutez chaque semaine, on va parler pendant une demi-heure, 40 minutes, 45 minutes de toute l'actualité du football. Et Maxime, on va démarrer avec le sommaire de cette émission et on va démarrer avec le premier grand rendez-vous de cette Ligue 1, puisque Marseille-Saint-Etienne avait été repoussé, qui n'a pas eu vraiment d'énormes affiches jusqu'ici. PSG-Marseille dimanche, ce sera le premier sujet de cette émission, Maxime.
Ouais, PSG-OM, ça aurait pu être un match un peu particulier, parce que le PSG aurait pu arriver présenter sa Ligue des Champions s'il l'avait gagné devant l'OM. Alors, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça aurait été au Parc des Princes, mais à l'arrivée, ça ne va pas vraiment être ça, pas vraiment la fête pour le PSG. On l'a vu jeudi, une défaite face à Lens, avec ce PSG complètement amoindri, complètement dégarni, parce que 7 joueurs en moins à cause du Covid. Et bien, dimanche, face à l'Olympique de Marseille, ça va être un peu la même chose. Il va falloir jouer avec beaucoup moins de joueurs. Et nous, du coup, on a envie de se poser la question de la constitution de l'effectif du PSG. Est-ce que c'est un effectif trop court ou est-ce que l'effectif du PSG serait-il par hasard mal bâti pour ce genre de soucis que le PSG est en train de vivre en ce moment?
Ensuite, on continuera avec. On aura envie de parler d'Alphonse Areola et des prêts du mercato. Voilà. Alphonse Areola, qui il y a 2 ans était titulaire au Paris Saint-Germain, champion du monde, et qui là qui termine en prêt à Fulham. Voilà, après une saison. Comme doublure du côté du Real Madrid, il va de prêt en prêt, c'est son 5e prêt, imaginez, alors qu'il n'a que 27 ans. Il n'est pas le seul, dans ce cas, à vivoter de prêt en prêt et à voir sa carrière décliner. 3e sujet, Maxime, on reviendra sur l'élection de Vincent Labrune.
Ouais, pareil, alors Lens PSG, c'était hier, mais il y a eu autre chose hier, c'est l'élection de Vincent Labrune à la tête de la LFP. Élection surprise pour le coup, parce qu'on parlait beaucoup de Michel Denisot à partir du moment où Morinière lui s'était retiré. On pensait que ce serait Denisot, et puis Vincent Labrune est sorti du chapeau. Alors, on a souvent des surprises aux élections de la LFP, mais celle-ci est facilement, on va dire, décryptable. On va vous expliquer pourquoi. Et ce qu'il y a derrière l'élection de Labrune, finalement, c'est aussi la perte de puissance et d'influence d'un certain Jean-Michel Aulas. Ça dure depuis le printemps, depuis le Covid. On va parler de tout ça dans la troisième partie de l'émission. Et pour finir, c'est le petit bonbon. C'était un petit truc qu'on a vu ce matin, une décla. Elle concerne un ancien international français. J'ai presque envie de dire un ancien footballeur aussi, presque.
Il n'a pas encore mis officiellement terme à sa carrière, mais il se voit intégrer un staff, pourquoi pas dans l'avenir. C'est Johan Gourcuff. Voilà, on a envie de parler de Johan Gourcuff, d'abord parce que c'est un footballeur qu'on aime bien, et l'imaginer sur un banc. Est-ce que ça semble envisageable ou non? Voilà, ce sera vraiment à la toute fin de cette émission. On espère, on vous supplie de rester avec nous jusqu'au bout. Si vous courez, ce sera un footing peut-être un peu plus long que prévu, mais c'est pas grave, ça fait du bien aux organismes.
Ça fait pas de mal.
Ouais, ça fait pas de mal. Donc restez avec nous jusqu'au bout, et on va démarrer donc Maxime avec. Voilà le choc de cette 3e journée de Ligue 1, Paris Saint-Germain-Marseille, ce sera dimanche.
On va d'abord parler vite fait de distribution pour vous dire comment on retrouve le podcast, évidemment. On le retrouve sur les très bonnes plateformes de podcast, vraiment les meilleures, les autres, si on n'y est pas, c'est que c'est pas bon. Donc Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Acast et compagnie, j'en oublie. Et évidemment, vous nous laissez des commentaires, vous mettez 5 étoiles, ça nous permet de remonter dans les classements. Et surtout, on y tient vraiment les commentaires. Mettez-nous des commentaires, même pour discuter. Comme ça, on peut, c'est une manière aussi d'échanger avec vous. Et pourquoi pas, si vous avez des idées de sujets, des suggestions, nous, on est prêts à tout faire pour vous, pour vous rendre heureux.
Et Maxime, c'est beau ce que tu dis. Tu es prêt à tout faire pour rendre les gens heureux. Mais je te reconnais bien là. Parce qu'il faut savoir que Maxime, Césaire, un peu, voilà, c'est quelqu'un de généreux, cœur sur la main. Le mec, tu lui demandes un tout petit service, il va te décrocher la lune, Maxime. Ça, il faut que vous le sachiez, chers amis qui vous nous écoutez. Allez, chers amis qui vous nous écoutez, ça ne veut rien dire. Bon, on démarre avec le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui s'est incliné hier pour son entame de championnat, l'entame de la défense de son titre, un peu à la surprise générale. C'était en plus sur la pelouse du promu Lensois. Paris qui s'est incliné donc 1-0, un but de Ganago d'ailleurs, mais surtout une prestation très timide des Parisiens qui se sont créés très peu d'occasions, un seul tir cadré. C'est pas dramatique, ça ne veut pas dire que Paris ne sera pas champion à la fin de l'année, surtout qu'il manque beaucoup, beaucoup de monde dans l'effectif du Paris Saint-Germain, beaucoup d'absents dus au Covid-19. Mais malgré tout, ce Paris Saint-Germain, on se dit, avec la puissance financière qu'il dégage, l'avance qu'il a sur ses concurrents, il devrait, même s'il y a beaucoup d'absents, même les meilleurs joueurs, il devrait avoir une petite marge sur la concurrence, notamment Lens. Mais hier, on a vu un Paris Saint-Germain incapable de marquer, incapable de se procurer des occasions. Le problème, c'est que c'est le plus gros match de la saison qui arrive dimanche. Le plus gros match parce que c'est Marseille, donc déjà l'ennemi intime. Mais en plus, Marseille qui a terminé dauphin l'an dernier. Donc, s'il y a une menace pour le Paris Saint-Germain dans ce championnat, ça reste à établir. Mais s'il y a une menace, Marseille la représente, l'incarne, tout comme l'Olympique Lyonnais ou Monaco et d'autres. Mais avant tout, Marseille. Maxime, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est normal qu'un club comme le Paris Saint-Germain, avec tout l'argent qu'il dépense, est-ce que c'est normal qu'il aligne un 11 tel qu'il l'a aligné hier et potentiellement une équipe encore très, très diminuée, loin de ses standards face à Marseille dimanche?
Alors, normal, je vais dire oui et non, parce que ce qui arrive au Paris Saint-Germain, 7 absents liés au Covid, c'est évidemment exceptionnel. C'est imaginer que là, c'est toute l'attaque qui est décimée et que le PSG se retrouvait à nu à Lens. Ce qu'on a vu hier à Lens, c'est une équipe qui aurait pu jouer sans doute 2h, 3h sans marquer de but. Non pas parce qu'elles ont essayé, mais c'est parce que vous voyez que devant, c'était beaucoup trop léger. Voilà, avec tous les efforts de Ruiz, de Calimendo, de Sarabia, ça ne fonctionnait pas. Le mieux qui aurait pu arriver au PSG, et même ce qui aurait dû arriver au PSG hier, c'est de faire 0-0. Il n'y aurait pas eu la boulette. Ça faisait 0-0, ça faisait un point. Et la lecture n'était peut-être pas complètement la même, mais n'empêche. À savoir maintenant si c'est normal que le PSG se retrouve dans cette situation-là. Est-ce que le PSG déjà a un effectif trop court? Alors déjà, je vais avoir la décence de ne pas plaindre le PSG parce que si on plaint le PSG sur la longueur de son banc, il faut plaindre tout le reste de l'élite. Il faut imaginer demain si Dijon se retrouve avec 7 joueurs touchés par le Covid. Imaginez les problèmes qu'aurait Dijon. Ce serait aussi catastrophique et bien plus que le Paris Saint-Germain. Je ne vais pas plaindre le Paris Saint-Germain non plus, parce que le Paris Saint-Germain, même s'il venait à perdre dimanche contre l'Olympique de Marseille, il sera champion de France. Il ne faut pas se mentir, il y a trop d'écart entre lui et les autres. Maintenant, je pense que plus que trop court, l'effectif du PSG est tout simplement mal bâti. Tout simplement. Pourquoi ? Parce que, en fait, on a l'impression que l'effectif du PSG, pour faire simple, il y a une vraie équipe, une grande équipe de stars qui est exceptionnelle, voilà. Entre deux, il n'y a pas grand-chose, on va dire. Et après, il faut aller piocher chez les jeunes, tout ça. Donc pourquoi le PSG aujourd'hui en est là, à cette situation-là ? Elle est assez simple, finalement. Parce que le PSG a une politique, depuis le début, très dispendieuse. Quand vous achetez Neymar, quand vous achetez Mbappé à 222 millions et 180 millions, évidemment, vous décidez de mettre un peu vos œufs dans le même panier. Si vous regardez aujourd'hui, sur le site du Paris Saint-Germain, l'effectif du PSG, dans les attaquants, il y a qui ? Il y a Neymar, il y a Mbappé, il y a Icardi, donc c'est-à-dire que vous avez quasiment... Alors, Icardi est en retrait aujourd'hui. Il est censé être titulaire. Vous avez quasiment que des titulaires. Et si derrière, vous avez un problème, il faut aller chercher, bricoler ou faire monter un Sarabia. Il y a des solutions au PSG, ce n'est pas le problème. Mais ça explique aussi qu'il y a ce décalage et on arrive à cette situation-là qu'on a eue hier. C'est-à-dire que s'il manque beaucoup de joueurs, il faut aller chercher dans la réserve. Et c'est ça qui est problématique. Parce que aussi, le PSG, on va le dire, les jeunes qui pourraient être entre deux, les fameux Nkunku et compagnie, qu'est-ce qu'ils font ? Dès qu'ils peuvent, ils s'en vont. Ben voilà. Et pourquoi ils ne sont plus là ? Parce que justement, c'est aussi la résultante de ce qu'on voit hier. C'est-à-dire que vous ne jouez finalement que si vous êtes, j'exagère, une star, ou si vous êtes un joueur établi, c'est très compliqué, que ce soit Tourelle qui l'a souvent fait, il a fait monter des jeunes, notamment en début de saison. Emery avait aussi tenté en début de saison, mais ça ne va jamais plus loin. Donc la difficulté, c'est de tenir les objectifs, mais de faire jouer tout le monde. Et à partir du moment où vous appelez Nkunku, que vous êtes titulaire d'une équipe qui a fait une demi-finale de Ligue des Champions, ah oui, il vaut mieux partir du PSG. Donc le PSG aujourd'hui, il est un petit peu pris à son propre jeu. Et moi, si je devais entre trop court et mal bâti, j'irais quand même plus vers le mal bâti, parce que c'est là qu'on voit qu'il y a un creux, on va dire, derrière les 11, 12, 13, 14 joueurs qui sont potentiellement titulaires.
Moi, je trouve qu'il y a trop d'écart entre le 11 type et ce qui vient après. Il manque une case un petit peu intermédiaire, surtout en défense et surtout en attaque. D'autant plus que voilà, aujourd'hui Cavani est parti, ça laisse un trou béant. Et c'est vrai qu'on est dans un moment, dans une séquence où Paris Saint-Germain a un effectif un peu court en ce moment, en tout cas, en attendant la fin du mercato. On s'est amusé à comparer un peu les équipes réserves des deux clubs qui étaient en finale de Ligue des Champions, donc le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Et on voit que par rapport au Bayern Munich, le Paris Saint-Germain, l'équipe réserve, enfin le 11 bis. Ah, il a un peu moins de profondeur, un peu moins de densité, tout simplement. Par exemple, le Bayern peut vous aligner un milieu Martinez-Tolisso, deux joueurs qui sont champions du monde, un Hernandez sur le côté gauche, un Coman devant, maintenant que le roi Sané, a signé. Coman fait partie de cette équipe bis. Au Paris Saint-Germain, c'est un peu plus compliqué. Devant, si on devait sortir trois joueurs, en doublure de Neymar, d'Icardi, Di Maria et Mbappé, s'ils jouent tous les quatre, leur doublure, c'est Sarabia. Et derrière, Draxler joue plus au milieu, Kalimuendo, Ressé. Enfin, bon, voilà, il y a un petit gap, moi, qui me semble évident par rapport à d'autres équipes. Je ne parle même pas de Manchester City, parce que j'ai regardé l'équipe réserve de Manchester City. Il n'y en a pas, en fait. Il y a 22 joueurs quasiment qui sont quasiment tous d'un même niveau. Au Paris Saint-Germain, ce n'est pas comme ça parce qu'on a choisi, tu l'as dit, tu as très bien expliqué, Maxime, je ne vais pas revenir dessus, une autre politique, une autre voie, une voie de dépenser des sommes énormes pour des stars. Et du coup, forcément, quand il y a des absents comme en ce moment au Paris Saint-Germain, ça se voit un peu plus. Parce que je pense que le Bayern, si tu lui enlèves 6 titulaires, par exemple, s'il joue contre un promu en Bundesliga, ça n'empêchera pas de gagner. Même chose avec Manchester City. Paris se confronte en tout cas à ses limites du moment qui sont assez claires. Et juste pour revenir sur l'attaquant, parce que pour moi, c'est ce qui me semble le plus dingue, faire jouer Kalimuendo hier. Alors, il y avait Cavani jusqu'ici, il y avait Cavani à Icardi. Mais il manque pour moi au Paris Saint-Germain cet attaquant qui, intermédiaire. Qui n'est ni Icardi, je vais y arriver, Cavani, qui est un peu plus que Choupo-Moting. Cet attaquant intermédiaire qui ferait du bien.
En fait, on a un nom, moi j'ai toujours un nom qui me revient, il joue au PSG avant, c'est un joueur comme Gamero. Voilà. C'est typiquement de l'attaquant qui fait du bien à une très bonne équipe de Liga, qui n'est pas bâti pour être au Real, qui n'est sûrement pas bâti pour être titulaire dans ce PSG-là, mais qui aurait l'envie aussi, parce qu'il faut être sur le banc, de jouer sur le banc et de rentrer et de mettre des buts. Parce que finalement, vous regardez le match d'hier, je pense que la lecture n'est pas la même et le match n'est peut-être pas le même si vous n'avez ne serait-ce que Neymar, ne serait-ce que Mbappé. Si vous avez juste Mbappé en pointe, je ne serais pas étonné que le PSG marque et ait un tout autre visage hier et que ça ne se passe pas comme ça. Donc voilà, il ne manque pas non plus grand-chose. Voilà. Et mais pour leur dire, comme tu l'as dit, moi quand je dis qu'il n'est pas trop court, je veux parler en général parce qu'on ne peut pas plaindre un club qui a autant d'argent et qui est maître de ses dépenses et tout ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, oui, il est trop court parce que il se retrouve dans une séquence, comme tu l'as dit, où Cavani est parti, Choupo-Moting est entre deux zones à part signer. Donc évidemment, il sait que du bricolage et pour le coup, c'est pas de peau parce que ce match, il arrive presque. Alors, c'est paradoxal, presque trop tard. Peut-être que s'il avait été joué à la date voulue, PSG, alors il y avait le Covid, ils avaient déjà été touchés, il y aurait eu des tests, peut-être qu'il y aurait eu des joueurs qui auraient été absents, mais peut-être pas tous et peut-être que ça serait passé différemment. Donc voilà, c'est le PSG là, sur la soirée d'hier, il se retrouve un peu piégé par ça, mais encore une fois, c'est une situation exceptionnelle et que je pense que tu parlais du Bayern, moi je pense aussi qu'il est un peu plus équilibré, mais quand je vois l'équipe qu'on a montrée tout à l'heure, il n'y a pas non plus une énorme différence. Devant, il y a Coman, ok, mais après, c'est pas non plus complètement fou. Donc je trouve que on est peut-être un petit peu dur là-dessus. Voilà, ce qui est difficile, en effet, c'est d'équilibrer un effectif, aussi bien dans son équipe type qu'en dessous. Parce que la situation de l'année dernière, où le PSG a Icardi titulaire une partie de la saison, Cavani en doublure, mais c'est pas possible. Les deux joueurs sont surdimensionnés pour ce poste-là. Ce qui manque au PSG, c'est de trouver le petit joueur qui est en dessous, mais qui ne s'appelle pas Choupo-Moting. Parce que même si Choupo-Moting a rendu service en Ligue des Champions, ce n'est pas viable sur une saison, ça n'efface pas tout. Il faut que le PSG aille chercher, c'est peut-être un Français, je ne sais pas, un joueur entre les deux. Je donne l'archétype, pour moi, c'est un joueur comme, un peu comme Gamero, un mec qui va mettre ses buts, qui ne pourra pas être en point titulaire dans ce club-là, mais qui fera l'affaire. Voilà, je ne dis pas Gamero, parce que je pense que lui, il n'a peut-être pas envie voilà, d'être dans cette situation-là, mais c'est un joueur entre deux, ce n'est pas brillant, ce n'est pas marketé, mais c'est le joueur qui vous rend des services dans une soirée comme hier soir, où le PSG a démarré. C'est la première fois, d'ailleurs, depuis le premier match de l'RQSI, que le PSG se retrouve avec 0 points. Et deux défaites d'entrée de championnat du PSG, là je vais être honnête avec vous, je ne me souviens pas, il faudrait que j'aille chercher. Mais si le PSG venait à perdre contre Marseille, évidemment ce ne serait pas très grave parce que, encore une fois, pour le championnat...
Ça ferait tâche quand même. Face à Marseille, ouais. Face à Lens, ça peut être excusable. Non, mais... Avec en plus, c'est un club qui revient de vacances avec plein d'absents, etc. Contre Marseille, il n'y a pas d'excuse possible en fait. Donc, donc mine de rien, cette défaite qu'on n'attendait pas, elle met un petit peu de pression quand même sur Paris.
Oui, ça fait des ordres de démarrer avec 0 points. Et on l'a vu, ils ne l'ont pas bien pris, cette défaite à Lens. Parce qu'on pourrait dire, c'est une péripétie, il manque 7 joueurs hyper importants. Bon, bah voilà, ça fait partie du jeu. Il reste 37 journées. Mais on l'a vu après les réactions que, notamment, Marco Verratti n'avait pas trop digéré, un peu comme Leonardo, le fait que le championnat est un peu, on va dire, démarré sans eux. C'est-à-dire qu'on le rappelle, la Ligue 1 a redémarré le week-end du 23 août. Le week-end du 23 août, c'était le week-end de la finale de la Ligue des Champions. Donc les Parisiens, et Verratti l'a redit hier, ils en veulent à la Ligue d'avoir, non pas cru en les chances du PSG, mais d'avoir balayé ça un peu d'un revers de la main et d'avoir fait démarrer le championnat au même moment. Toi, Martin, t'en penses quoi? Est-ce que Verratti, il a raison hier de se plaindre de ça?
En fait, c'est une position que le Paris Saint-Germain adopte depuis quelques temps déjà. Enfin, que Leonardo a adopté au Canal Football Club dimanche dernier, mais qu'il a adopté même lors de son premier mandat. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il parlait de faire juste des taureaux tirés au but, ce n'est pas possible. Si la France perd une place à l'indice UEFA, c'est que cela ne marche pas. Quand il avait eu cette sortie-là, Leonardo, il est en croisade contre les instances françaises. Et voilà, il adopte parfois une position que peut adopter Jean-Michel Aulas de l'Olympique Lyonnais. Il veut faire du Paris Saint-Germain, un club qui est un peu seul contre tous. Voilà. Il n'a pas été soutenu pendant la Ligue des Champions, il n'y a pas eu d'engouement autour du Paris Saint-Germain, etc. Voilà. Moi, je trouve que c'est une posture un peu simple. Ce qui est certain, c'est que c'est vrai que programmer la première journée de championnat quand il y a une finale de Ligue des Champions, c'est vrai que c'est un peu maladroit du côté de la LFP, mais il faut rappeler une chose, parce qu'on ne peut pas comparer la situation de la France avec celle de l'Allemagne, de l'Angleterre qui démarre plus tard, qui démarre ce week-end, c'est que la France... elle n'avait pas continué son championnat, donc c'était arrêté mi-mars, donc que la Ligue 1 pouvait redémarrer un petit peu plus tôt pour aussi finir un petit peu plus tôt parce que la saison va être très longue. Donc le calcul de ce point de vue-là, il n'était pas mauvais, il était même plutôt bon ce calcul-là. Le problème, c'est que le Paris Saint-Germain effectivement est allé un peu loin, qui démarre un peu avec un handicap, c'est certain, puisqu'il n'a pas démarré, il n'a pas joué les premières journées parce que finalement son degré de récupération après la Ligue des Champions est très court. Mais moi, je trouve pas ça scandaleux. Voilà, je trouve pas ça scandaleux. Et je trouve qu'ils y vont un peu fort de se cacher derrière ça. Défaite face à Lens, première journée, et que ce soit l'excuse derrière laquelle se cache Verratti. Moi, je trouve ça un peu simple. Je trouve ça un peu simple.
Et il y a un élément que tu as oublié, si je puis me permettre, c'est que la France, au contraire des autres pays européens, l'été prochain, elle a un euro à gagner.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, Maxime. Cela dit. Si la France gagne l'euro, il n'y aura pas beaucoup de joueurs du Paris Saint-Germain. Hein. Oui, un ou deux, pas beaucoup plus.
Mais... Non, mais pour être plus sérieux aussi là-dedans, c'est que déjà, culturellement, la Ligue 1 est un championnat qui redémarre avant les autres, tout simplement. La Serie A démarre toujours tard, la Liga démarre tard, et entre les deux, il y a la Première Ligue et la Bundesliga. Donc que la Ligue 1 redémarre avant les autres, ce n'est pas choquant, et d'autant plus, comme tu l'as dit, c'est le seul championnat qui s'était arrêté. Donc les clubs aussi, ils étaient un peu aux abois. Et plus on redémarre tôt, plus le chèque, le premier versement des droits TV, il tombe. Donc ils avaient besoin de ça. Maintenant, là où je suis... Alors, je pense que tout simplement, ce n'est pas le moment pour le faire hier. C'est-à-dire que tu viens de perdre un match, contre un promu, un peu de respect aussi pour lui. Ce n'est pas le moment. Parce qu'au fond, ça ne change rien que le championnat ait démarre tôt ou pas. Ce match-là, il est hier, ils l'ont perdu. Et le Covid, c'est encore autre chose. Maintenant, c'est vrai que la LFP... dans la droite lignée de ce printemps, c'est pas très sérieux, voilà. Tu as un club, tu as deux, d'ailleurs on dit un club, ils ont deux clubs qui étaient en quart de finale de la Ligue, enfin huitième et quart de finale de la Ligue des Champions. Ça fait un peu, mais c'est pas la première fois d'ailleurs, ça fait un peu, bon on n'y croit pas, de toute façon on met des dates là, c'est pas la première fois qu'on a des dates qui viennent se chevaucher ou qui sont très proches de finale de Ligue des Champions, de demi-finale, et qui donnent l'impression que finalement le football français n'y croit pas. On sait que si on va en huitième ou en quart, c'est déjà bien, donc voilà, ça manque un peu on va dire, d'ambition, voilà. Mais je pense qu'hier, c'était pas le bon moment, même si sur le fond, je suis assez d'accord avec les récriminations du Paris Saint-Germain.
Allez, on a fait le tour du Paris Saint-Germain. On va passer au deuxième sujet de cette émission. On va parler d'un Parisien. Il est toujours Parisien. Il a toujours été Parisien.
Encore deux ans.
Encore deux ans. C'est Alphonse Areola qui s'est engagé cette semaine avec Fulham. Il s'est engagé en prêt, évidemment. Alphonse Areola, c'est un champion du monde, un gardien de but, 27 ans. 27 ans et déjà 5 prêts dans sa carrière. Voilà. On a voulu s'intéresser à Alphonse Areola avec Maxime. Parce que c'est un peu symptomatique, il est un peu victime de son époque, un peu victime du prêt, du recours au prêt, de ces gros contrats qu'on n'arrive pas à vendre, du coup on les prête. Alphonse Areola, comme d'autres, est devenu un peu la variable d'ajustement des effectifs et c'est très difficile de construire une carrière quand on se fait prêter un peu partout. En 2017-2018, 43 matchs joués, Alphonse Areola, gardien titulaire du Paris Saint-Germain. Un an plus tard, 31 matchs joués. L'année dernière, doublure au Real Madrid. Donc, 9 matchs, je crois, avec le Real Madrid. Et là, il part à Fulham. Donc, on est passé de champion du monde et gardien titulaire du Paris Saint-Germain à prêt à Fulham. On ne sait pas s'il sera titulaire ou non. Bref, c'est une carrière qui est en train de tourner légèrement au vinaigre. Et tout ça, Maxime, le prêt n'y est absolument pas étranger.
Oui, alors déjà, si on remet dans le contexte, Alphonse Areola, comme tu l'as dit, il a eu sa chance au Paris Saint-Germain, ça n'a pas fonctionné, et on a souvent entendu avec Areola, il faut le faire grandir, il faut le prêter pour le faire grandir. Oui, enfin, grandir, à un moment, là, il a 27 ans, donc je pense qu'il est suffisamment... il grandira plus. D'ailleurs, j'espère, parce qu'il est déjà très, très, très grand et très costaud. Moi, personnellement, c'est un gardien que j'apprécie, j'aime bien, et je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il est peut-être en train, entre guillemets, de passer à côté d'une meilleure carrière, parce que je maintiens, moi je pense que c'est un très bon gardien. Voilà. Là, il est allé à Fulham. Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est pourquoi Fulham, pourquoi l'Angleterre? Alors on a entendu parler de son histoire d'achat de maison, je crois que l'année dernière en Angleterre, à Londres. Il y a aussi un choix de ville, il l'a dit, sur le site de Fulham, en disant moi je rejoins Fulham parce que c'est Londres, parce que c'est l'Angleterre. Il a parlé de l'école, de sa vie, de ses filles, etc. Donc c'est plutôt, il y a quelque chose de sain finalement. Il construit aussi quelque chose autour du football. Mais il arrive dans une situation, dans un club où il y a un gardien, l'année dernière, Rodak, qui a fait une plutôt bonne saison. Et pour l'instant, l'entraîneur de Fulham, qui est Scott Parker, l'élégant Scott Parker, dit pas forcément qu'Areola sera titulaire. Alors bon, on serait quand même étonné qu'il ne soit pas titulaire, mais à l'arrivée, il le sera. Maintenant, qu'est-ce que ça dit, ça, cette histoire de prêt à tire l'arigot pour Areola? Finalement, il n'est pas le seul dans ce cas-là. Et moi, j'ai un gros problème avec les prêts. Déjà, à la base, moi, je vais vous le dire directement, je suis contre le prêt en football. Je trouve que c'est une aberration absolue. Il y a 10 000 sports qui se portent très bien sans prêter des joueurs. Déjà, d'un point de vue éthique, c'est complètement aberrant de dire « j'ai un joueur, je le prête dans un autre club. Potentiellement, il peut jouer contre moi. Et le jour où il va jouer contre moi, je vais demander à ce qu'il ne le joue pas. » Donc, c'est le beurre et l'argent du beurre. Après, il y a toujours l'argument de dire « un prêt, ça sert les joueurs, ça fait grandir un jeune. » Franchement, j'aimerais que vous me citiez sur les 10 joueurs qui ont changé leur carrière grâce à un prêt. Et qui sont revenus plus forts dans leur club d'avant.
Non, mais il y a différents prêts. Il y a le joueur qui a un boulet parce qu'il a un trop gros contrat dans un grand club. Et dans ce cas-là, ils n'arrivent pas à le développer. Donc, ils le prêtent. Et là, c'est des carrières qui s'enlisent. Alors, comme Batshuayi, comme Ressé et comme Areola.
À qui la faute? Alors, je te coupe, après je te laisse reprendre. À qui la faute? La faute du club qui a pris, la faute du club qui a donné le prix et qui finalement trouve un avantage à prêter le joueur. C'est-à-dire que ce joueur-là, il appartient vraiment à personne et on le file à droite, à gauche pendant des années. Et on gâche aussi pour moi parce que quand on dit ça arrange le club qu'il récupère, oui, mais finalement tu bâtis sur du sable parce que ce joueur-là, il reste quoi? Il reste un an, il reste 6 mois, après il repart. Parce que le club à qui on l'a prêté, bah quoi, il n'a pas les moyens de se l'acheter. Donc ça arrange qui à la fin? Pour moi, ça arrange toujours le grand club. Je parle de perversion du système. En plus, ça tombe bien, tu as parlé de Batshuayi avec Chelsea. Est-ce que c'est normal qu'un club puisse avoir 70 joueurs sous contrat? C'est devenu une entreprise. C'est-à-dire qu'on a 70 joueurs sous contrat, on en prête 40, on récupère juste ceux qui sont bons et on revend ceux qui sont suffisamment bons pour aller dans un autre club mais qui vont faire de l'argent. En gros, c'est devenu un levier économique. Et ça arrange qui à la fin? Ça arrange que les gros clubs. Et les gros clubs sont toujours beaucoup plus riches. Et finalement, entre guillemets, j'allais dire, pique la matière première de clubs moyens. Je prends encore un cas. Il était là hier sur le terrain à Lens. Gaël Kakuta. Lui, pareil, il a passé sa vie à être prêté. Ben moi, j'ai du mal à penser que Gaël Kakuta aurait peut-être pu faire une meilleure carrière si c'était pas retrouvé, prêté à gauche et à droite. Et à un moment, il faut faire des choix. C'est-à-dire que vous avez des jeunes dans un club. Les prêter, c'est une chose, mais ça encouragerait aussi à les faire jouer. Si vous n'aviez pas le choix, vous seriez peut-être un peu plus dur avec les jeunes, c'est-à-dire, bah, lui, je vais le garder parce que j'y crois, donc je le garde, je le ferai jouer. Vous êtes obligé de le faire jouer. Les autres, vous les vendez et peut-être que vous améliorez leur carrière. Moi, vraiment, j'ai le prêt, je ne comprends pas. Et au-delà de l'interdire, peut-être qu'il faudrait donner des limites de prêt. C'est-à-dire, quand je parle de limites, je parle de nombre de prêts. Areola, peut-être qu'on devrait dire, le PSG, il a le droit de le prêter deux fois. Après, il faut le vendre.
L'exemple le plus typique pour moi, c'est Batshuayi qui avait été très bon avec Dortmund. Dortmund n'a pas pu le garder et derrière, il est reparti et il est retombé dans ses travers. En fait, c'est ça, c'est que, comme tu dis, tu construis sur du sable. Le club dans lequel tu es prêté, il n'y a aucun club qui cherche à te développer. En fait. Il n'y a aucun club qui te construit la carrière. Donc, c'est de la faute des joueurs, c'est de la faute de leurs conseillers aussi, parce que le rôle d'un conseiller, c'est de construire une carrière de joueur. C'est pas forcément d'aller courir le plus gros contrat qui, derrière, tu vas traîner comme un boulet. Oui, Batshuayi, pourquoi il est encore à Chelsea? Bah, parce qu'il a un énorme salaire et parce qu'il, donc, il peut pas trouver la même chose ailleurs. Mais je reste quand même convaincu qu'il y a certains. Le prêt de Saliba, ça a été plutôt bien géré cette histoire-là, parce que Arsenal a permis de le faire grandir encore un an du côté de Saint-Etienne, et ça a été bénéfique pour tout le monde. Mais d'un autre côté, t'as aussi des joueurs comme Bakayoko qui sont prêtés à Milan, qui sont prêtés à Monaco, et ça donne des carrières absolument illisibles. Il faut que le prêt il s'inscrive une progression.
Oui, mais Saliba, pour moi, il est différent, le prêt, parce que c'est un achat. Et on dit, on le laisse grandir. C'est-à-dire qu'ils ont préempté un joueur. À la guerre, ça ne me choque pas. C'est qu'il y a il y a une vraie ambition d'Arsenal avec Saliba. C'est-à-dire qu'on l'achète, on le sécurise en quelque sorte, on le prend. Le vrai problème aujourd'hui, c'est si Saliba va à Arsenal et que dans 6 mois, il est prêté.
Voilà, c'est ça.
Voilà. Là, pour moi, c'est un peu différent parce que c'est le joueur, même si je ne suis pas forcément pour ce genre de truc, c'est-à-dire que vous achetez par exemple un joueur l'hiver, vous laissez 6 mois dans son club, ça ne me choque pas tellement parce qu'il y a un suivi et Saliba. Finalement, il n'est pas parti à droite à gauche, il est resté à Saint-Etienne. Donc, il y avait une logique de progression et c'est plutôt malin. Le prêt, en revanche, du joueur qu'on achète au bout de 6 mois, on se dit « Ah, ça ne marche pas », etc. On se trouve coincé. C'est 25 millions, je crois, Ressé.
Ouais.
Là, c'est un boulet. Alors, c'est aussi les clubs aussi qui sont pris leur propre piège. C'est-à-dire qu'on leur dit « Vous avez acheté ce joueur-là trop cher. » Bah ouais, mais le gars, il se dit « Moi, j'ai un contrat, je n'ai pas envie de partir ailleurs. » Donc, il va ici à droite et à gauche. Il rend un service ici et là. Et je trouve que c'est dommage parce que je reviens toujours à mon histoire du quel jeu. Vraiment, moi, j'attends qu'on me dise par A plus B. Alors, il y en a sûrement, je les oublie. Qu'on me dise ce prêt-là a été bénéfique pour un joueur et ça a changé sa carrière. Il est revenu plus fort dans son ancien club. Rabiot, il était au PSG. Il est parti à Toulouse parce qu'il était impatient de jouer. Il est revenu, il a joué. Mais au fond, Rabiot, qu'il soit parti ou pas, il était juste impatient. Il aurait joué au PSG. Il a suffisamment de talent. Ce que je veux dire, c'est que si. C'est rare quand même qu'un type revienne d'un an de prêt et qu'on dise là il est métamorphosé, c'est un tout autre joueur et qu'il devienne, j'allais dire, une légende du club ou un type hyper important. Moi je trouve que le prêt avec lequel j'ai du mal aujourd'hui, c'est ça, c'est dire vous achetez 30, 40 joueurs, 50 joueurs, un effectif qui est au-delà des normes et vous prêtez ici à gauche. Voilà, l'exemple c'est typiquement Chelsea. Alors c'est malin d'un point de vue économique évidemment, mais au niveau sportif c'est quand même un souci. Et alors je ne parle pas évidemment des prêts dans les clubs satellites parce que ça c'est encore autre chose, c'est-à-dire ne serait-ce que de penser qu'on peut avoir deux clubs dont on est propriétaire, je trouve ça complètement délirant. Parce que si demain tel club rencontre tel autre club en Ligue des Champions, il y aura toujours des soupçons de dire ah bah ouais mais c'est le satellite et c'est pas bon, voilà. Donc à mon avis en fait je vais rien inventer, je vais pousser des portes ouvertes, tout ce que vous voulez. Le tournant économique du football, là, on est allé vraiment très, 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 très loin et trop loin, encore une fois. Encore quand les prêts avant servaient à équilibrer un petit peu, pourquoi pas à la rigueur. Mais là, c'est devenu complètement délirant, c'est comme situation.
Maxime, est-ce que tu veux que cette émission dure une semaine ou pas?
Sur les prêts, ces trucs-là, ça pourrait durer des heures, des mois, des jours.
Ah, mais ça fait déjà 3 heures, hein, Maxime. Donc,
déjà 3 heures, ouais. Mais c'est vrai voilà. Mais encore une fois, moi, je ne comprends pas. C'est comme si toi, demain, Martin, on te prête à NBC. Pendant 6 mois, est-ce que dans les entreprises, on prête des joueurs, des gens?
Allons-y. Faisons un test, Maxime. Je pars à NBC 6 mois. Ouais. Mon option d'achat, tu l'as fixée à combien? Parce qu'il faut rappeler que Maxime est mon chef. Tu l'as fixée à combien, mon option d'achat?
J'ai pas réfléchi encore. Ouais, je te prends
quand même quelques millions.
Je pense que je mets un prêt sans option d'achat, quand même.
joueur. Ah voilà, ça me fait plaisir.
Mais non, mais c'est en fait c'est aussi bête que ça, c'est que les autres sports n'utilisent pas ce système-là et je vois pas pourquoi le foot en particulier a besoin de ce système-là, sinon pour régler un problème économique, quelque chose qui est illogique tout simplement. Voilà.
Il est reparti. Non, t'arrêtes là. Bon, allez, on va passer au troisième sujet et l'élection du président de la LFP qui a un peu surpris tout le monde hier. Nous, les premiers, Maxime, il faut bien le dire, on attendait Michel Denisot. Ce fut Vincent Labrune. Vincent Labrune, ancien président de l'Olympique de Marseille, ancien ennemi intime de Jean-Michel Aulas.
Même pas intime.
C'était ennemi tout court. Jean-Michel Aulas et Vincent Labrune qui sont souvent chicanés lorsqu'ils étaient adversaires sur le terrain. Vincent Labrune qui n'était pas soutenu évidemment par Jean-Michel Aulas. Et finalement, est-ce que cette élection de Vincent Labrune à la tête de la LFP ne souligne pas ce qu'on dit quand même depuis quelques mois et la crise du football français face à la pandémie de Covid-19, un petit peu la perte d'influence de Jean-Michel Aulas sur le football français, tout simplement, Maxime.
Déjà, on n'est pas à la première élection bizarre à la Ligue. Il y a eu à l'époque Bourgoin et compagnie. C'était la team Aulas. La dernière élection, souvenez-vous, Raymond Domenech, la cellule de crise, il a fallu ramener Nathalie Bois-de-la-Tour, qui était pour le coup la protégée de Aulas. Cette fois, ça n'a pas marché, puisque Vincent Labrune a été élu président de la Ligue. Alors, c'est une grosse surprise, parce qu'en plus, lui, il est très malin et très bon, il a caché son jeu jusqu'au bout, parce qu'on croyait que ce serait l'ancien patron de l'équipe, Morinière, ou Denisot, l'ancien boss du PSG, qui serait là. Et puis finalement, on s'est dit, oh, ça va être Denisot, il est dans un fauteuil. En plus, Denisot, pour ce qu'il représente dans le football français, son passé, le personnage, la compétence, tout ça. Et qu'est-ce qu'on a vu arriver hier sur nos téléscripteurs ? Eh bien, tout simplement, Vincent Labrune, alors évidemment, c'était une énorme surprise. Et comme tu l'as dit, pour Jean-Michel Aulas, c'était pas forcément une bonne surprise. D'ailleurs, après, quand il a été interrogé, il devait être content d'avoir son masque parce que ça cachait un peu, enfin, ça cachait à peine ses émotions. Souvenez-vous quand même, tu parlais de leurs inimitiés. C'est quand même quelqu'un, alors on peut avoir des désaccords avec d'autres présidents de club, mais c'est quand même quelqu'un que Aulas a traité de guignol devant les micros.
La phrase exacte, c'est Vincent Labrune est un guignol, il ne durera pas aussi longtemps qu'il le croit. Dans le milieu du football.
C'est assez exceptionnel.
Enfin, c'était il y a 5 ans.
Voilà. Fleury Moucheté, la violence, entre guillemets, à Fleury Moucheté de cette phrase-là, parce que même quand Aulas a des désaccords avec d'autres, c'est plus calme, à part quand c'est un certain joueur de l'équipe qui est allé un peu plus loin dans ce qu'il avait dit à l'époque. Mais voilà, c'est étonnant. Donc oui, bah, évidemment, pour Jean-Michel Aulas, c'est pas une super nouvelle. C'est pas une super nouvelle non plus pour les très gros clubs, parce qu'en fait, si Labrune a été élu, c'est grâce à l'apport des. Il est, en fait, comme une voix vaut une voix, il n'est pas allé chercher les voix aux côtés du PSG, aux côtés de l'OL, mais du côté des autres clubs de Ligue 1. Donc, ce que ça dit, comme tu l'as dit, Martin, oui, il y a une baisse d'influence de Jean-Michel Aulas, d'ailleurs.
Moi, je pense que le tournant pour Jean-Michel Aulas, c'est pas tellement cette élection, c'est plus la crise du Covid-19, où il était un peu seul contre tous. C'est pas tellement. La ligne qu'il a fini par défendre, c'est-à-dire qu'il fallait reprendre à tout prix, parce que je pense qu'il y a certains présidents qui étaient de cet avis-là, c'est plus ces changements de cap et de direction en fonction du vent. Voilà, c'est plus ça qui a hérité les autres présidents de Ligue 1. Et qui, aujourd'hui, il est beaucoup plus isolé qu'à une certaine époque, Jean-Michel Aulas. Jean-Michel Aulas, on pensait qu'à un moment donné, il allait pourquoi pas briguer le siège à la FFF, devenir le grand patron du football français. Je dis pas qu'il n'a plus aucune influence, mais on remarque depuis quelques mois quand même un effritement de son pouvoir sur le football français. Et cette élection de Vincent Labrune en est le témoignage le plus évident aujourd'hui.
Si je devais résumer ça par une phrase, vous ne pouvez pas incarner le collectif quand vous avez été aussi individualiste au moment du printemps.
Exactement.
Voilà, c'est parce qu'il s'en défend, il a raison de s'en défendre, il dira ce qu'il veut, c'est un formidable président, on le sait, et ça on ne le redira jamais assez. Il n'empêche qu'il a défendu juste son club au moment du Covid. Il n'a même pas fait semblant, à la rigueur. Enfin, si, il a fait semblant, mais il aurait pu peut-être mettre un peu d'eau dans son vin et dire, bah voilà, les autres clubs. Non, il ne l'a pas fait. Et là, on voit aussi que ça s'est effrité, c'est qu'il voulait revenir à la Ligue. Finalement, il dit, non, mais je vais rester à la FFF, ça se passe très bien, je suis très content au Comex, tout ça. Mais au fond, il n'était pas si bien que ça, parce que Noël Le Graët, pendant la crise, il lui en a un peu voulu d'avoir siffler la fin de la récréation. Donc au fond, là, il essaye de rester là où on veut bien lui et là où il n'avait pas le risque, parce que là, il y avait un vrai risque qu'il ne soit pas élu Jean-Michel Aulas dans les instances de la Ligue. Donc en fait, il a préféré rester à la FFF. C'est très malin, il ne dira jamais ça, évidemment, il ne l'a pas dit comme ça, mais c'est aussi ça. Donc oui, Le printemps a fait beaucoup contre lui pour le coup, et hier il s'est appris bah, pour le coup un petit retour de bâton. Même si après il faut un peu dédramatiser ce qui s'est passé hier, si j'étais lyonnais, si j'étais parisien. Oui, Vincent Labrune est l'ancien président de l'Olympique de Marseille, qui est une autre puissance du championnat. Oui, il s'entend oui. très bien avec Hérault, mais le but de Labrune, c'est pas de tirer dans les pattes du PSG, c'est pas de tirer dans les pattes de l'OL. Le but de Labrune, c'est de réussir sa mission en tant que président de la Ligue. Et un président de la Ligue ne réussira pas sans le PSG, sans l'OL, et de faire qu'elle soit plus prospère pour les droits TV, toutes ces choses-là. Donc, il ne faut pas fantasmer à se dire qu'il y a une perte d'influence. Il y a une perte d'influence d'Olas dans les instances. Mais au fond, il travaillera aussi avec Vincent Labrune, ce qui va être un peu assez savoureux. Parce que le guignol là, qui ne devait pas rester longtemps dans le foot, il est encore là 5 ans après. Et ça dit aussi long de Vincent Labrune, qui est pour le coup plutôt costaud quand même.
Allez, on va terminer cette émission avec un autre revenant qui n'est pas encore tout à fait revenu, hein, lui, contrairement à Vincent Labrune. C'est Johan Gourcuff, l'ancien milieu des Girondins de Bordeaux et de l'équipe de France, et qui, dans une interview pour un média bordelais, revenait sur l'actualité des Girondins. Et puis, il a eu cette petite phrase qu'on avait envie de commenter avec Maxime, « Intégrer un staff, pourquoi pas dans l'avenir ?» Johan Gourcuff, de retour dans le football, de retour sur un banc de touche. Rappelons que son papa est l'entraîneur actuel du FC Nantes. Rappelons aussi que Johan Gourcuff a toujours eu une vision quand même en tant que joueur, sur le football, qui ne se contentait pas de jouer, qu'il avait aussi, on sentait des idées derrière, et chaque fois en interview, il était plutôt savoureux. Est-ce à dire qu'il ferait un bon coach? Est-ce à dire qu'il fera un coach tout court? Ça paraît compliqué quand même, Maxime, quand on se souvient comment l'histoire s'est terminée, comment l'histoire s'est écrite aussi du côté de Lyon. Gourcuff de retour sous les projecteurs, moi j'ai du mal à l'imaginer. Un entraîneur en plus, c'est celui qui est le plus exposé. Il y a des conférences de presse après chaque match, il y a des conférences de presse après les matchs. Et imaginez Gourcuff, Johan, face au micro, ça me paraît un peu compliqué. Dans un rôle d'entraîneur principal en tout cas.
Ouais, et c'est dommage parce que, alors on va revenir sur le joueur. Moi alors là, j'assume complètement, j'étais à peu près fan du joueur parce que. Le futur Zidane, bah oui, c'était lui. Il n'y a pas normalement. Alors évidemment, il n'y a pas que les jambes, il y a la tête et tout ça. Voilà, il n'était peut-être pas assez fort et peut-être pas assez intégré dans ce milieu qui est particulier. Mais voilà, footballistiquement, c'était un joueur fabuleux, beau à voir jouer. Il y avait tout et qui respirait le foot. Alors c'est vrai que pourquoi on a réagi là-dessus? Parce que ce matin, on a vu ça, on s'est dit « Ah ouais, quand même, c'est marrant qu'il parle de ça. » Parce que déjà, j'imaginais absolument pas qu'il pense même revenir un jour dans le milieu du foot. J'ai l'impression qu'il en veut plus au milieu du foot que le contraire, parce que évidemment ça a fait sa fortune et sa carrière, mais il a pris suffisamment de coups et on voit que c'était pas forcément un milieu fait pour lui. Mais quand vous discutez un petit peu avec Johan Gourcuff de football, c'est passionnant tout simplement. Il n'y a pas mieux. Prenez une demi-heure, discutez avec le papa Christian Gourcuff de football, c'est exceptionnel. Voilà, c'est des gens passionnés. Ils connaissent ça sur le bout des ongles, vous avez envie de parler, vous pourriez parler des heures, rester avec eux. Voilà. Donc, rien que le fait d'imaginer Johan Gourcuff parler football, revenir sur un banc plus tard après sa carrière et devenir entraîneur, ce serait génial. Maintenant, comme tu l'as dit, je ne sais pas ce que tu en penses, Martin, mais dans le rôle
de. Moi, si je le vois revenir, très, très honnêtement, là, dans l'état actuel des choses, eh ben, à Bordeaux, comme adjoint, en charge d'un secteur, par exemple, et sous l'égide de Jean-Louis Gasset, le papa Gasset, qui protège ses joueurs et tout ça, là, ce serait un truc parfait. Alors, le placardé entraîneur principal d'un club de Ligue 1, je pense que, un, il n'est pas prêt à assumer toute cette charge médiatique, parce qu'imaginez Johan Gourcuff qui revient sur un banc, ce serait, voilà. Et deux, je ne suis pas sûr qu'il en ait envie. En revanche, qu'il a envie de retrouver les terrains pour conseiller, ou peut-être même auprès des jeunes, je ne sais pas, ou dans des clubs peut-être un peu moins exposés, comme Rennes, ouais. comme Bordeaux, ou même comme Nantes avec son papa, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas, mais en l'état actuel des choses, ça me semble très compliqué d'aller au-delà de ça.
Il y a un mot qu'on a vu dans son interview, il me semble, mais dont on a parlé même avant de la lire, c'est sérénité. Voilà. Si Johan Gourcuff a besoin de quelque chose, c'est évidemment de la sérénité. C'est un joueur qui marche aussi à l'affect, qui a été... On va pas se mentir, qui a été aussi flingué par Naïsna, par la Coupe du Monde 2010, on ne reviendra pas là-dessus. Voilà, on est passé à côté d'un, peut-être un des meilleurs joueurs de l'histoire du football français, simplement parce que c'est un joueur fantastique, encore une fois. Voilà, il a sûrement ses fautes aussi, voilà, mais je pense qu'il n'est pas prêt. C'est pas qu'il n'est pas prêt, je pense qu'il n'est pas fait pour affronter le monde médiatique tel qu'il est. Alors, comme tu l'as dit, oui, peut-être que dans une atmosphère comme Bordeaux, où c'est plus feutré en tant qu'adjoint ou en tant que spécialiste de quelque chose, bah oui, ça marcherait, ça pourrait, et ce serait intéressant. Mais encore une fois, c'est presque dommage de c'est comme Christian Gourcuff, ces profils-là, le football français, on a besoin. Alors, Christian Gourcuff, il a ses défauts, il est très professoral, il donne des leçons, etc. Et quand même, 70-80% de ses leçons sont bonnes à écouter. Et c'est un type qui est, encore une fois, je le dis, passionnant et qui respire le foot et dont on a besoin. Et je pense que, évidemment, bah, les chiens font pas des chats et que le fils de Christian Gourcuff, il suffit encore une fois de parler avec lui. Si vous retrouvez des analyses de lui, de match, de mi-temps, d'après-match, il y a souvent un petit truc qui vous dit « Ah ouais, lui, il a vu ça, ça, un autre footballeur lambda ne l'aurait pas vu. » Et bien, Gourcuff, il avait ça aussi en tant que joueur. Et c'est vrai que du coup, c'est vraiment une curiosité, on aimerait bien. Mais bon, encore une fois, je pense que c'est très difficile. Ou sinon, ce serait peut-être à l'étranger, un peu plus incognito. Et le problème, je pense que les médias reviendraient vite là-dessus et ce serait très compliqué pour le coup.
Quand je t'entends dresser le portrait de Christian Gourcuff, Maxime, je me dis que tu es un peu le Christian Gourcuff du journalisme, en fait. Passionné, érudit.
Professoral, tu veux dire. C'est ça qui est l'honneur de le
faire. Ah, j'ai pas dit professoral, Maxime. C'est toi qui l'as dit. Bon, en tout cas, on vous remercie. Merci, Maxime, de nous avoir suivis cette semaine encore. On espère que ça vous a plu. On se donne rendez-vous, évidemment, la semaine prochaine. On vous rappelle que vous pouvez nous écouter soit en podcast, toutes les bonnes plateformes de podcast.
Podcast, Google, etc. Vous nous trouvez partout. Et vous restez évidemment sur Eurosport tout ce week-end parce que vous avez la fin de l'US Open avec la finale dames et les demi-finales hommes plus la finale hommes. Et évidemment, la fin de la deuxième semaine du Tour de France qui est absolument passionnant. Donc Eurosport. Et d'ailleurs, vous retrouvez Eurosport sur le site eurosport.fr désormais puisqu'il suffit de cliquer là et vous avez tout l'environnement et tout ce qui se passe sur la chaîne de télévision.
Merci à tous. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut.
Salut Martin.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.